you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Marie-Josée Sirache, René Solissé et Jean-Christophe Briançon pour parler ensemble de Angels in America, de Tony Kushner, mise en scène Arnaud Desplechin, c'est à la Comédie Française. Phèdre, point d'exclamation, texte et mise en scène de François Gremaud d'après Racine, en ce moment en tournée en France, mais aussi à voir en ligne sur le site de France Télévisions. La Carpe et le Lapin de Vincent de Dienne et Catherine Fraud, c'est au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et puis il y aura aussi un coup de cœur, le mien, ce soir pour Motel, texte et mise en scène de Charlie Fournier, c'est au Théâtre du Petit Saint-Martin. Nous ouvrons donc cette dispute avec Angels in America de Tony Kushner, mise en scène Arnaud Desplechin, la Comédie Française. Cette pièce est donnée dans la traduction de Pierre Laville, la pièce en deux parties, créée en 91 et 92 à San Francisco, à New York. Elle a reçu cette pièce le prix Pulitzer, le Tony Award, à Londres le Laurence Olivier Award. La pièce créée en France en 94 par Brigitte Jacques-Wajman. On a aussi pu la voir en polonais, montée par Christophe Walikowski au Festival d'Avignon en 2007, puis au Théâtre du Rond-Point. Bon, d'autres productions, bien sûr, de ce spectacle, j'en parle de quelques-unes. L'action se situe à New York au milieu des années 80. On va y rencontrer Pryor, qui est atteint du virus du sida, qui vit avec Louis. Louis va le quitter, ne supportant pas cette maladie et ce que ça fait à son couple. Il y a aussi Roy Cohn, homme de pouvoir, avocat, juif, homosexuel, mais aussi antisémite et homophobe, ce qui est quand même évidemment très savoureux. On va dire qu'il vit dans le déni, non seulement de tout cela, mais de sa contamination par le virus. Il y a Harper, qui elle se réfugie dans les médicaments pour adoucir un quotidien conjugal avec Joe, qui n'est pas de tout repos. Joe, c'est le jeune assistant de Roy Cohn. Lui, il est mormon, fervent, mais aussi dans le déni de son homosexualité. Et enfin, l'infirmier Belize, qui est fier d'être noir et drag queen, qui veille sur les malades de son service, où arrivera justement Roy Cohn. Tout cela sous le regard de l'ange de l'Amérique que l'on va justement entendre dans cet extrait.
Je te salue, prophète. De grandes œuvres commencent. Le messager est arrivé.
Allez-vous-en !
Je suis l'ange de l'Amérique, le grand oiseau à tête blanche, principauté continentale.
Non, je suis désigné pour rien du tout, j'ai des tas de choses à faire.
Prophète de l'Amérique, tu deviens ce soir. Œil américain, ta vision transperce la nuit. Cœur américain, tu t'enflammes pour la vérité. Tu es le chantre suprême, celui qui sait. Tu parles la langue du monde. Tu es l'esprit qui voit.
Oh, je crève de peur. Sortez de ma chambre, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît.
Ouvre-moi, prophète. Je suis le livre.
Attendez, comment se fait-il que j'ai cette érection? C'est très dur de se concentrer.
Le raidissement de ton pénis est très secondaire.
Pas pour vous peut-être, mais je...
Tu es la chair stupide. Je suis la chair qui énonce.
Un moment, s'il vous plaît. Un petit moment, un tout petit moment, d'accord?
Chaque matin à votre réveil, le paradis s'inquiète et se fissure. Comme si nous n'étions rien d'autre que votre rêve.
Dieu!
Dieu? Il s'ennuyait à mourir avec ses anges. L'humanité l'envoûtait. Alors il s'est humilié. Jusqu'à vouloir vous imiter, vous, la plus imparfaite de ses créations.
Voilà pour cet extrait d'Angels in America, en ce moment la Comédie Française. Premier tour de table rapide pour recueillir votre sentiment sur ce spectacle, René Solis.
Dire d'abord que c'est un classique contemporain, Angels in America, et que c'est, on en a une version, on va dire correcte, mais abrégée.
Jean-Christophe Briançon.
Bah, c'est un spectacle politique sans engagement, sans parti pris, sans violence, sans politique. C'est agaçant.
Marie-Josée Sirache.
Un spectacle onirique avec des oranges, des âmes en
en peine et sur fond de New York des années 80 qui se rapproche ou nous rappelle le New York d'aujourd'hui.
Ça, c'était la fin de la phrase. Oui. Non, il était un peu en l'air, donc j'attends. Bon, René Solis, je vous taquine, Marie-Josée. Vous êtes souffrante en plus, hein, donc je vous taquine très gentiment. René Solis, quelques mots peut-être sur cette adaptation faite par Arnaud Desplechin, parce que la pièce originale, elle doit durer 6-7 heures, ça dépend des versions. Ici, c'est une version de 2h30, ce qui n'est quand même pas tout à fait négligeable comme coupe. Qu'est-ce qu'on peut dire des choix d'Arnaud Desplechin déjà?
Bah alors, je dois dire, je voudrais pas jouer trop les anciens combattants, mais vous avez cité un certain nombre de mises en scène déjà de Jazz in America. Il se trouve que j'ai eu la chance de voir le spectacle en 93 à New York. C'était les premières séries de représentations à New York. Mmh. J'avais vu le spectacle de Brigitte Jacques et puis j'ai vu aussi le spectacle de Varlikovski en 2007 au Festival d'Avignon. Et à chaque fois, ils avaient joué le jeu. Ils ont tous joué le jeu de la longueur du texte. Donc, d'abord dire que c'est une pièce en deux parties. C'est un diptyque. Donc, Angels in America, c'est le titre générique The Millennium Approach et Perestroika. C'est le titre des deux pièces qui reprennent les mêmes personnages à quelques mois ou années d'intervalle. Donc, ça se suit. Donc, Desplechin, il a expliqué que voilà, il se sentait pas de monter les 6 heures, que ça lui semblait un défi, voilà, qui était pas celui qu'il souhaitait relever. Par ailleurs, je pense qu'il y avait des conditions de production avec la Comédie Française qui faisaient que effectivement c'était compliqué un spectacle de 6 heures à la Comédie Française.
Ça n'arrive. Quand ça a été annoncé, ça n'arrive jamais.
Ça, j'ai pas le souvenir.
Spectacle de cette longueur, 4 heures, ça va être le bout du
français.
Spectacles. Il faut que rentrer avec le métro. Non, mais il y a les horaires, en fait, qui sont liés aussi à l'alternance, qui font que ça commence à 20h30. Ça ne peut pas commencer beaucoup avant. Au rond-point, quand c'était la mise en scène de Varlikovski, ça commençait à 6h de l'après-midi. Ça finissait vers minuit. Oui. C'était un peu ça. Donc, lui, il n'a pas senti, en tout cas.
Ou il n'a pas eu forcément les moyens.
Donc, de faire
alors,
cette version.
Que dire sur son. Donc, c'est une adaptation. Il a coupé. Comment dire? Il a taillé dans les pièces, mais il a gardé l'essentiel, c'est-à-dire la trame narrative. Mmh. Et c'est justement peut-être le problème qu'il y a. C'est-à-dire que. On entend bien les enjeux de la pièce. Il y a un triple enjeu qui est un enjeu politique, un enjeu parodique et un enjeu poétique. On entend bien surtout les deux premiers, on va dire, parce que l'enjeu poétique, il est un peu, je trouve qu'il passe un peu à la trappe. Et donc, il réduit tout ça, il le fait un peu, et c'est là que le cinéaste ressort, je crois. Il prend ce texte finalement comme une trame narrative et il le traite un peu à la façon d'un scénario. Donc, il identifie les situations, des moments, des articulations, et il en fait une histoire qu'on suit très bien, c'est-à-dire que son montage, son adaptation, on le suit sans aucun ennui, il est plutôt dynamique comme ça, mais il manque de toute évidence quelque chose. Et ce qui manque, alors j'ai retrouvé ce que disait Varlikovski justement, qui a monté donc la pièce en 2007 en version intégrale au Festival d'Avignon, et il disait à l'époque, mon travail consiste à toujours privilégier le texte plus que les situations. Et je pense que Desplechin fait en fait exactement l'inverse, d'où ce sentiment de manque de quelque chose, d'une dimension.
Quelques mots encore pour mieux expliquer ce qu'on voit à la Comédie Française avec Jean-Christophe Briançon sur la conception à la fois scénographique et les partis pris de direction d'acteur, de mise en scène d'Arnaud Desplechin.
Alors sur la scénographie, je pense que c'est certainement ce qui m'a le plus plu dans cette pièce, puisque elle est assez riche et mouvante, parfois assez jolie également, constituée de panneaux successifs qui vont permettre à chaque fois aux spectateurs de vivre l'époque et la ville dans laquelle se passe l'action, donc le New York des années 80. Ça débute par deux rideaux, ce qui me semble être des rideaux qui sont d'un bleu très joli. C'est ce que je retiens avant tout de cette pièce. C'est ces deux rideaux que j'ai trouvé magnifiques et très beaux mis sur cette scène de cette façon. Ensuite se suivent une succession de panneaux et de d'objets sortant de la scène et entrant dans l'espace scénique qui, tour à tour, permettent d'être un coup à Central Park, un autre coup dans le bureau de Roy Cohn,
à l'hôpital,
chez Joe, etc. Donc, c'est une scénographie assez réaliste qui peut virer vers l'illustration parfois, ce qui pour moi, on en discutera peut-être, est un problème. Ensuite, pour la direction d'acteurs dont vous parliez, c'est une direction assez c'est une direction de mise en situation et de d'actor studio, quoi. C'est des comédiens qui décident à un moment de jouer une situation et une narration telle qu'elle a été pensée par quelqu'un dont ils sont manifestement très extérieurs.
Marie-Josée Sirage, qui a visiblement livré un premier avis, j'ai cru interrompu, mais plus positif que ses deux camarades, Marie-Josée,
oui, rentrait
vraiment dans le débat.
J'avais vu le Varlikovski, moi, la mise en scène de Varlikovski, j'en gardais un souvenir extrêmement bouillonnant, très trash, comme Varlikovski sait le faire. Enfin, j'ai des souvenirs de murs d'hôpitaux un peu crades. Voilà, c'est des flashs comme ça que j'ai. Avec son travail à lui, enfin, effectivement, on va jusque dans les retranchements, dans le texte, il le fait entendre, il le fait résonner. Effectivement, le travail des Pléchin est pas du tout au même endroit. Il a réduit la durée. Je trouve son découpage fonctionne quand même, parce qu'effectivement, il ne nous perd jamais en route. On entre dans l'histoire, je trouve que ces personnages sont bien sentis. Alors, peut-être je suis bon public, parce que j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'il y a des problèmes partout. Mais j'ai trouvé que, franchement, ça fonctionne. Il y a une dynamique, ça s'installe. On est plongé dans cette Amérique des années 80. Et ce qui est assez... je ne sais pas comment il arrive à nous projeter dans cette Amérique des années 80 qui nous renvoie à celle d'aujourd'hui, en même temps. Et c'est ça qui est assez subtil chez lui, parce que la pièce aurait pu être très datée, puisque quand même les dates sont répétées, hein. On est en 84, 86, 90, ça finit avec la perestroïka. Donc on voit bien qu'on embrasse une décennie un peu chaotique de par la géopolitique, et puis avec l'irruption du sida sur le devant de la scène qui est un fléau qui frappe tout le monde. Et du coup, la pièce n'est pas du tout datée. Je trouve qu'elle est totalement actuelle, avec toutes les peurs et les fantasmes qui peuvent ressurgir aujourd'hui, que ce soit sur des questions de nouveau de géopolitique, de droits des minorités, de droits humains. Je trouve que ça fonctionne bien. C'est servi par des acteurs. C'est toujours, on dit toujours un peu pareil sur les acteurs du français, mais je les trouve toujours aussi formidables. Et, que ce soit Dominique Blanc, Jennifer Decker, Gaëlle Camilindi. Enfin, moi, je les ai trouvés remarquables. Sur la scénographie, elle est très très épurée. Elle est d'une douceur qui contraste avec la violence quand même des situations, de la violence de la vie de ces personnages. Et par exemple, les découpages des lumières sont extrêmement beaux. Je trouve qu'ils pacifient tout ce récit qui pourrait être chaotique, partir dans tous les sens. Et je trouve que, non pas que ça ordonne, mais ça insuffle un peu d'apaisement dans ce chaos.
Alors peut-être moi, c'est ce qui m'a manqué, mais je pense que je suis dans le droit fil de ce que disait tout à l'heure René Solis. Il me manque un peu quand même de complexité, de tension dramaturgique, de moments de suspens. Mais c'est un choix assumé par Arnaud Desplechin, de dire qu'il a essayé de tout garder, mais en enlevant en même temps beaucoup. Et moi, je pense que l'intrication, en tout cas, de ces destins, de ces personnages, elle est rendue, mais elle n'est pas rendue, me semble-t-il, et c'est presque inévitable, avec la force que ça avait dans la version intégrale. Moi, j'ai des souvenirs très précis, pour le coup, de la mise en scène de Varlikovski, qui m'avait mis dans un état... second. Enfin, ça m'est rarement arrivé de sortir d'une salle de spectacle dans cet état-là. Je ne savais plus très bien ce que j'avais vu, et en même temps, j'étais... Enfin, ça m'avait vraiment... ça avait agi sur mon corps, quasiment, et beaucoup sur mon esprit. Côté comédien, je ne vous rejoins pas tout à fait. Bon, pour une fois, je vais faire un bémol, mais je trouve que Clément Hervieux-Léger, vraiment, le soir, en tout cas, je l'ai vu pousser le curseur beaucoup trop loin, mais surtout que c'était pendant presque toute la durée de la représentation. On peut être plus ou moins sensible au show Dominique Blanc, parce que c'est quand même ça, de ça qu'il s'agit, parce qu'elle joue 5 ou 6 rôles différents. Alors disons que j'étais plutôt moins sensible pareillement le soir où je l'ai vu. Pour les autres, je les ai trouvés plutôt très bien, que ce soit Jérémy Lopez, Christophe Montonès, qu'on n'a pas encore cité, qui ont une partition assez juste et assez sombre. Florence Viala, que j'adore, je trouve qu'on la voit pas assez, mais ça c'est un problème personnel. Je vous rejoins sur Gaël Camilindi. Mais alors moi j'ai surtout trouvé, ce qui n'est pas toujours le cas, donc je peux le dire d'autant plus, Michel Vuillermoz, tout à fait formidable dans le rôle du salaud, l'ogre, quoi. Alors, c'est aussi, d'une certaine façon, la même note d'un bout à l'autre, mais il la tient tellement bien que j'avoue que j'ai été très, très sensible à ce qu'il a fait là. Et Jennifer Decker, moi, je trouve qu'elle fait quand même des merveilles dans ce spectacle, avec des intonations qui m'ont rappelé la jeune, ou moins jeune d'ailleurs, parce qu'elle joue toujours comme ça, Anouk Grimbert, pour cette sensibilité, cette douceur, cette fragilité, ce qui est toujours sur le film, mais moi, je l'ai trouvé tout à fait remarquable. J'ai fait un grand tour là, du coup. René Solis.
Oui, on parlait de la mise en scène de Varlikovski. Alors, on va pas être trop sévère non plus. C'est-à-dire que moi, quand je dis un classique en version abrégée, ça veut dire que il donne quand même à entendre un certain nombre, ce que je disais, des enjeux de cette pièce. Mais c'est vrai qu'elle vaut plus que ça. Il faut redire quand même que c'est une pièce vraiment importante
dans l'histoire du théâtre récent
et du théâtre américain, ouais. Parce que c'est une pièce qui d'abord par son ambition politique et puis par son contenu, par son fond, par ce côté visionnaire comme ça, cette façon de prendre les événements contemporains et de les projeter, de s'interroger sur le sida comme métaphore du déclin de l'Amérique et de l'effondrement des défenses américaines. Enfin, c'est de tout ça dont il parle. Et il en parle avec une langue, avec une fantaisie, avec une ambition qui sont quand même tout à fait remarquables. Et puis la forme même de la pièce tranche complètement sur le plus grande partie de la production du théâtre américain, puisque c'est une forme qui est en rupture avec le théâtre, le naturalisme, le réalisme psychologique, qui intègre, alors il est contemporain, la pièce est contemporaine des grandes pièces de Botho Strauss et Tony Kushner, il a vu ça, mais cette construction totalement avec les histoires qui se croient
mosaïque,
sans arrêt,
puzzle,
cette mosaïque,
ouais. Puis cette durée aussi aux États-Unis qui est tout à fait,
et puis l'onérisme de l'ensemble, il y a des fantômes, il y a des morts, il y a des... Donc tout ça, ça crée quand même quelque chose de radicalement neuf. Et en même temps, parce qu'ça a été créé à Broadway quand même, etc. Il faut dire aussi que cette structure par tableau, elle renvoie aussi quand même au musical américain et tout, et donc que le public de l'époque n'était pas complètement désarçonné non plus par ce qu'il voyait. Donc
c'est d'autant plus fort qu'il se sert justement d'un genre tout à fait établi avec ses codes, mais qu'il qu'il agit de l'intérieur.
Et pour rebondir rapidement sur ce que vous disiez sur Michel Vuillermoz, je suis d'accord avec vous, il est très bon, et c'est d'autant plus important que ce personnage de Roy Cohn, qui est le seul, enfin pas le seul parce qu'il y a les fantômes de Julius et Ethel Rosenberg, ouais. Il y a des personnages historiques, mais c'est le seul dans la distribution, dans l'histoire qui est racontée, qui est un personnage réel. Donc ce Roy Cohn, bras droit du sénateur McCarthy, grande figure de la droite américaine, et qui donc malade et mort du sida, qui a nié jusqu'au bout son homosexualité, c'est un personnage formidable, et effectivement c'est le personnage de salaud pétri de contradictions, et Tony Kushner il le rate pas, il le met au centre de tout ça, c'est vraiment lui qui est la clé de voûte de tout ça, qui est presque la résolution de l'énigme, si on peut dire. Enfin, c'est vrai que Vuillermoz, il assume très bien ce rôle de clé de voûte du spectacle.
Jean-Christophe Brianchon, enfin.
Non, bah moi je suis pas d'accord, mais pas d'accord avec tellement de choses qui viennent d'être dites que c'est compliqué de savoir par où commencer. Moi, pour moi, le problème premier, c'est la façon. On parle de politique avant tout, mais alors la politique ici est réduite à des dates, à des dates. Alors la chute du mur, la perestroïka, tout ça, des dates, des événements dont on n'arrive plus exactement à savoir ce qu'ils représentent, de quoi ils sont la résultante, etc. Donc la politique est étant réduite à des dates, elle n'est plus réduite à ce qu'elle a produit et ce qu'elle a été concrètement dans la vie des gens et dans ce qu'elle est encore dans notre vie à nous. Ce qui fait un spectacle qui, bien souvent, finit par être, illustrer, à nous raconter une histoire violente et dure, mais à travers un espèce de grand mouvement dont on ne sait finalement pas réellement exactement ce dont il retourne et de quoi il était le fruit. La politique, c'est quelque chose d'un peu vague. Ces gens qui meurent, c'est des gens qui meurent d'une manière naïve, pas très violente, un petit peu bourgeoise, dans un décor somme toute bien fait et une histoire bien racontée. Mais pourquoi est-ce qu'ils meurent? Comment est-ce qu'ils meurent? Qu'est-ce qu'est la réalité de leur sexualité qu'on nous montre de manière très naïve, cette scène de sexe dans Central Park dont on ne dévoile pas exactement les tenants, les aboutissants, est quand même d'une naïveté absolue. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire de montrer le sexe de cette manière-là aujourd'hui quand on monte cette pièce? Ça veut dire qu'on n'ose pas, ça veut dire qu'on a honte, ça veut dire qu'on a honte de ce qui s'est passé, de ce qui pourrait se passer, on n'ose pas dire les mots, on n'ose pas montrer les images. J'attends pas de Desplechin qui fasse du Christophe Varlikovski, bien sûr, ce serait ridicule qu'il singe Christophe Varlikovski en faisant quelque chose de trash, de violent, d'absolu. C'est pas lui, c'est pas le lieu aux Français. Il y aurait, somme toute, eu, je pense, une possibilité de montrer les choses de manière un petit peu plus réelle, vraie et fondamentalement politique. Ici, simplement, une histoire nous est racontée, bien racontée, de la bonne façon peut-être pour raconter une histoire, mais pour moi sans engagement, et ça me pose terriblement problème.
Bon, quelqu'un veut faire une courte réponse, très courte, Marie-Josée
Sirache. Oui, sur la politique, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des dates, mais il n'y a pas que des dates, et les fantômes qui s'invitent comme Ethel Rosenberg rappellent quand même que la politique récente et la façon dont Roy Cohn comme avocat a fait tomber Ethel Rosenberg, qu'il assume avec la morgue et le cynisme qui le caractérise du début à la fin du spectacle, rappelle aux États-Unis cette période du macartisme. Et le lien qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que Trump était un copain de ce gars-là.
Oui, mais ça, c'est intrinsèque à la pièce de Kushner.
Mais quand il écrit la pièce, Trump, il n'était pas encore président des États-Unis.
Donc sûr, aujourd'hui,
c'est en ça qu'elle fait écho aussi à la situation actuelle. Et la pièce de Kushner, effectivement, moi je trouve qu'elle embrasse l'histoire de... Il y a le sida, mais le sida qui vient arrêter peut-être une histoire, enfin, et il l'a fait remonter au macartisme, à l'après-guerre, enfin, cette deuxième partie du XXe siècle où l'Amérique coulait des jours heureux, l'American Way of Life, on le vendait sur écran et partout. T'as des courses, il y avait quand même des salauds qui... McCarthy était un fou furieux et Roy Cohn aussi. Et donc, toute l'hypocrisie, tout ça, il dit dans cette pièce. Et je trouve que...
Et tout est dit parce qu'elle nous le dit.
C'est pas bourgeois.
C'est pas Desplechin qui nous le dit.
La petite Harper, c'est pas des grands bourgeois. C'est des gens simples. Enfin, c'est des gens simples. C'est des gens... Des New-Yorkais normaux. Enfin, voilà, c'est pas...
C'est pas...
Non, mais c'est pas des grands bourgeois, on n'est pas... c'est pas feutré, je trouve que c'est délicat. Moi, qu'est-ce que vous voulez... La scène dans Central Park, qu'est-ce qu'il va faire de plus? Moi, j'ai pas envie qu'il nous montre...
Qu'il nous montre pas. Alors.
Mais il nous montre pas, il le laisse
deux
l'entendre.
Hommes tenter de faire l'amour dans le parc. Non, je finis les phrases que vous laissez en suspens.
Pardon.
Bon, mais on va devoir s'arrêter là parce que le programme est encore chargé, vous savez, oui, 19h26, oui, c'est bien l'heure qu'il est. Nous parlions d'Angels in America de Tony Kushner, mise en scène par Arnaud Desplechin. C'était à la Comédie Française jusqu'au 22 mars. Et s'il n'y a plus de place, peut-être cette année, c'est possible, vu l'heure qu'il est. On imagine sans peine que ce spectacle sera repris dans les saisons à venir. On va parler de Phèdre, on va parler de la Carpe et le Lapin et de Motel.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute théâtre avec Phèdre. Il ne s'agit pas de la pièce de Jean Racine. Quoique, on va y revenir. Mais Phèdre, point d'exclamation de François Gremaud, un spectacle créé au Théâtre Villiers-Lausanne en juin 2018, qui est passé par le Festival d'Avignon, qui est en ce moment en tournée dans toute la France, passera donc certainement près de chez vous, je vous donnerai la date tout à l'heure. Une captation est également disponible en ligne sur le site de France Télévisions jusqu'au 31 décembre. De quoi s'agit-il? Alors le comédien Romain Darol monte sur scène, nous dit qu'il s'appelle Romain Darol et qu'il va nous parler de Phèdre, non pas Phèdre de Racine, mais Phèdre, point d'exclamation. Un texte de François Gremaud qui met en scène le comédien Romain Darol qui monte sur scène pour parler de Phèdre, non pas Phèdre de Racine, mais Phèdre, point d'exclamation. Je crois que vous avez compris.
Acte 1, premier acte. Hippolyte, qui est assis ici, commence la pièce par ces mots. Le dessein l'a mépris. Je pars, chère Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Alors, on a quelque chose, hein? On vient à peine de commencer la pièce et lui, il veut déjà partir. Mais pourquoi? Est-ce qu'on sent mauvais? Non, on ne sent pas mauvais. Hein. Hippolyte nous le dit, hein, il veut aller retrouver son papa qui, selon la rumeur, vous l'avez entendu comme moi, est parti aux enfers, est parti en Épire. Alors là-dessus, hein, Théramène lui répond, hein, en gros, hein, je paraphrase un peu, m'en voulez pas, hein, mais pourquoi t'inquiéter? Alors oui, il a une barbe, hein, Théramène, hein, parce qu'il est vieux, hein, voilà. Mais enfin, qui sait, moi, mais j'étais jusqu'à la porte des enfers, j'ai frappé, j'ai pas trouvé, personne n'a répondu, et puis qui sait, s'il faut, on connaît le bonhomme, hein, il est en train de s'acoquiner avec une demoiselle, laissons-le tranquille, hein. Dans la mise en scène de Phèdre par Jean Villard, Hippolyte était à l'époque joué par Michel Piccoli, hein, qui avait encore quelques cheveux, hein, qu'il pouvait coiffer en roupette. Enfin, en le cherchant, je suivrai mon devoir et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir. Enfin, mais pourquoi tu veux partir? T'as toujours préféré la campagne à la ville. Il n'y a pas lieu de... Cet heureux temps n'est plus. Tout a changé de face depuis que sur ces bords, les dieux ont envoyé la fille de Minos et de Pasiphae. Qu'est-ce que c'est, ça? La fille de Minos et de Pasiphae. Il s'agit de Phèdre, bien sûr, mais il s'agit aussi, dites-vous, d'un alexandrin, que d'aucuns considèrent comme le plus bel alexandrin de la littérature classique. Hein. Considération qui avait le don de prodigieusement agacer Marcel Proust. Hein. Mais nous n'allons pas revenir, hein, sur cet épisode qui nous ferait perdre un temps que Marcel Proust, vous le savez, a mis une vie entière à retrouver. Hein.
Voilà un petit goût de ce Phèdre, point d'exclamation, premier tour de table pour un premier avis. Jean-Christophe Brianchon.
C'est un Phèdre pour les nuls, version one-man show, qui est assez jouissif.
Marie-Josée Sirache.
Vous m'enlevez les mots de la bouche. Non, c'est une conférence déjantée sur un classique à mettre entre toutes les oreilles, jeunes et moins jeunes.
René Solis.
Oui, on entend bien dans l'extrait, on est dans un genre qui se rapproche plutôt du conte en même temps, mais c'est un conte avec une dimension comique très affirmée.
Jean-Christophe Brianchon, pour développer un petit peu, donc j'ai situé le décor, si je puis dire, parce que je vous ai pas demandé la scénographie, tout ça, parce qu'il peut jouer n'importe où, sur une estrade de classe, dans une maison de la culture, ou sur une très grande scène, Romain Darolle, c'est lui.
Ah, en l'occurrence, tel qu'on l'a vu, c'est un plateau, une table, et ouais. Romain Darolle devant cette table, avec le texte dans la main, ce qui lui permet de pouvoir, à peu de frais, interpréter à tour de rôle chacun des rôles qui font la pièce. C'est tout à fait jouissif parce que c'est vraiment un acteur au service d'une pièce et d'un public, peut-être avant tout d'un public, parce que c'est un one man show un peu un télo qui peut faire peur à certains, parce que c'est pas forcément très très accessible, on s'y perd même parfois un petit peu, mais c'est avant tout, je crois, une démarche de médiation culturelle quasiment. C'est un acteur qui décide à sa façon, avec plein d'atours et plein de petites astuces qui lui permettent de faire passer le texte, de nous dire réellement ce qu'était Phèdre, ce qu'était Racine, ce qu'était la langue de Racine, ce qu'était cette histoire, la mythologie grecque, etc. C'est assez sérieux, dans le fond, puisque tout nous est dit de manière très simple, très pure et très vraie. C'est sérieux, avec un acteur qui lui-même prend son rôle très au sérieux, puisque bien loin de la bouffonnade, il est dans une technique qui est elle aussi très pure. Il est à chaque endroit exactement là où un comédien racinien devrait ou pourrait être dans une version sérieuse de la pièce. C'est donc donc une démarche aussi aussi drôle qu'intéressante et nécessaire, parce que elle permet à beaucoup de gens, je pense, de regarder d'écouter et regarder ce texte pendant 1h40, ce qu'on a un petit peu de mal, ou en tout cas personnellement beaucoup de mal à faire dans une mise en scène classique de Phèdre. Personnellement, je n'irai pas nécessairement aujourd'hui voir me jeter sur une mise en scène de Phèdre. Là, j'y vais et en 10 minutes, je suis pris par ce comédien formidable qui fait les choses très bien.
Alors vous dites 1h40, ça va être la durée de la captation.
Alors la captation dure 1h38.
Mais c'est très variable d'un soir à l'autre. Ça peut durer 1h10 ou 2h. Ça dépend de comment ça se passe aussi avec la salle. C'est quand même beaucoup d'interactions. Il y a un texte, bien sûr. Et il y a d'autant plus un texte que quand on va voir le spectacle, on nous remet le petit livre à la main, et qu'à la fin du spectacle, tous les spectateurs sont invités à l'ouvrir à telle page. Et ce qui est fascinant, c'est que les dernières minutes, on les suit en lisant. Vous en souvenez, Marie-Josée? Moi, je me rappelais plus à quelle page c'était. Marie-Josée Sérache, sur ce Phèdre, point d'exclamation.
Oui, ce que disait Jean-Christophe, c'est Phèdre pour les nuls. C'est même plus que ça. C'est une approche ludique et décomplexée de la tragédie racinienne. Et c'est en ça que c'est jouissif, parce que il raconte tout, il explique tout avec une très grande simplicité, avec beaucoup d'humour et d'allant, totalement contagieux pour le coup, parce que le public fonctionne, jeunes et moins jeunes. Il va nous expliquer l'alexandrin, les mystiches, les allitérations, au vers 827, je crois, c'est le moment où Thésée réapparaît, je crois, revient. Voilà, on est au plein milieu de la tragédie, et là, tout bascule. Il dit ça avec une aisance, avec une grâce, avec un humour. Bon, Œnone, évidemment, elle est très très drôle avec son accent marseillais.
Oui, parce qu'il fait tous les personnages, Romain Darol.
Qui aimait aussi Bourville, qui fait parfois du Bourville, enfin du Pagnol. C'est très très drôle, enfin c'est truculent. Il est remarquable parce qu'il tient tout du début à la fin. Il n'y a pas de facilité dans son jeu. Vraiment, il ne lâche rien. C'est vrai que le seul accessoire qu'il a en main, c'est ce petit livre qui lui sert, qui lui permet de jouer tous les personnages, de les singulariser avec la voix. On se dit à la voix qui change, qui va moduler. C'est incroyable. C'est une façon d'avoir digéré Phèdre et de nous le rendre tellement accessible, tellement joyeux, parce que c'est quand même, ça reste une tragédie. Il nous le rappelle. C'est vraiment une tragédie avec des enjeux liés à cette tragédie où finalement ça meurt beaucoup à la fin. Mais il y a tout son prologue au tout départ sur l'histoire de la Grèce antique.
Il y a un cours de généalogie mythologique, qui me sert toujours.
Il est incroyable, c'est un best-of.
On comprend là,
on comprend tout.
On voit, on comprend.
On voit tout, absolument.
Bah, oui.
Mais moi ça me donne envie d'aller voir Phèdre quand même. C'est une pièce que j'aime beaucoup, qu'on ne montre pas souvent, mais...
Ça vous donne envie, René Solis, de revoir Phèdre?
Oui, alors, moi je suis quand même moins enthousiaste que mes camarades. Alors, je dois dire que moi aussi j'ai vu ce qui nous arrive presque jamais dans le cadre de cette émission et dans le cadre de la critique en général. J'ai vu le spectacle sur la captation, donc je l'ai pas vu en vrai. Donc c'est toujours un peu bizarre. J'ai pas.
Mais oui, mais il faut s'y mettre. On le fait régulièrement René, parce que c'est aussi un moyen de sur le théâtre, de diffuser l'art et la culture.
Certainement. En même temps, je crois que les réactions du public, le fait de le voir dans une salle, évidemment, change un peu la donne. Alors, moi je disais l'univers du conte, ça m'a avant tout fait penser à ça, y compris dans le dispositif, effectivement, c'est à main nue, il a la table et le livre, et puis les spectateurs sont pas assis autour, mais ils sont en L, c'est-à-dire qu'ils sont...
Ça dépend des salles, René.
Oui, alors peut-être qu'il y a des salles où ils sont assis autour.
Je l'ai vu en frontal.
Oui. En tout cas, dans la captation que j'ai vue,
Oui, j'ai vu la captation.
On a cette disposition, il a le public devant et de côté. Mmh. Et il joue beaucoup de la connivence avec le public. Il y a une ombre comme ça qui plane sur le spectacle et qui est une belle ombre, qui est celle de Raymond Devos, parce qu'il joue beaucoup sur la langue et qui marche avec la connivence avec le public. Alors deux exemples, comment elle s'appelle déjà, celle qui a tué ses enfants, vous allez m'aider à l'adresse du public, alors évidemment les gens rient, et puis Thésée, son père c'était Égée. mais il y a aussi la mère, et j'ai, enfin bon, voilà, ouais. Donc il arrête pas, hein, sur ce, et sur la langue précisément, et à plusieurs reprises, j'ai pensé à De Vos. Et je dois dire quand même que, assez vite, moi, ça me fatigue un peu. C'est-à-dire que, au bout de, c'est âgé continu comme ça. Et je suis pas d'accord avec vous, Jean-Philippe, sur le Jean-Christophe.
Mais s'il y a un Jean-Philippe ici, qu'il se dénonce.
Je suis pas d'accord avec vous, Jean-Christophe, sur Phèdre. Enfin, non, oui, moi, je préfère voir Phèdre et une belle mise en scène de Phèdre que le Phèdre pour les nuls, que comme vous avez dit, qui est.
Je préférais voir celle-ci. Qu'une autre, hein.
Moi, je pense que effectivement, tous les profs de français peuvent se précipiter voir ce spectacle avec leurs élèves et que ça les aidera beaucoup. Ça peut beaucoup les aider à étudier Phèdre avec eux ensuite en classe, parce que c'est une approche ludique et il fait ça avec talent, il fait ça très bien. Mais je suis au bout de 20 minutes, j'en avais déjà un petit peu assez. Voilà.
Moi, j'étais un peu inquiet comme vous, René, en découvrant le spectacle. Et puis en fait, je trouve que ça redémarre à chaque fois. Mais d'être dans la salle, ça change évidemment pas mal de choses. Moi, c'est vrai que c'est un spectacle que je conseille aux jeunes et aux moins jeunes. Moi, j'aime bien les jeux de mots qui sont volontairement quand même très, très énormes. Hein. Vous en avez donné deux exemples. Il y en a beaucoup. Mais il a une jovialité chez Romain Darol qui est quand même... voilà, c'est un humour très une bonne humeur très très communicative, mais c'est vrai que c'est un spectacle, je pense, qui est généreux. Enfin, on parle de Romain Darol, mais c'est, hein, rappelons bien que c'est François Gremaud qui en est l'auteur et le metteur en scène, et qu'il a su choisir vraiment l'interprète idoine pour transmettre ce Phèdre. On a plus beaucoup de temps d'en parler, donc je vais me donner maintenant, pardon, les dates, me contenter de donner les dates, ce sera quand même mieux des jours à venir pour ce spectacle. Alors, au 140 à Bruxelles, du 17 au 21 février, c'est passé. Donc ça, c'est passé. Bon, Théâtre de Fontblanche à Vitrolles, du 2 au 4 mars. Le Théâtre de l'Olivier à Istres, les 5 et 6 mars. Au Théâtre universitaire à Nantes, du 9 au 13 mars. Au Manège à Maubeuge, du 16 au 18 mars. Au Théâtre de Chelles, le 24 mars. À l'Espace 1789, à Saint-Ouen, les 26 et 27 mars. À l'association Tandem Arras-Douai, du 30 mars au 3 avril. À la Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc, au 9 avril. À l'Imagicène, pardon, centre culturel de Terrasson, du 15 au 17 avril, pour ce Phèdre, point d'exclamation de François Gremaud, qui finira cette saison au Théâtre de la Bastille. Plusieurs cycles de représentations, mais en gros, ce sera joué entre le 4 mai et le 6 juin. Pas en continu, mais ça doit être sans doute peut-être les week-ends, ou, enfin plusieurs séries de représentations au Théâtre de la Bastille, et puis bien sûr, en ligne, sur le site de France Télévisions, jusqu'au 31 décembre. Alors, je vais essayer de faire vite, mais sans trop bafouiller pour mon coup de cœur, parce que pour une fois, c'est mon coup de cœur. Double, en fait, coup de cœur. En fait, à l'occasion des représentations de Motel, pièce écrite et mise en scène par Charlie Fournier, pour saluer la programmation du Théâtre du Petit Saint-Martin, dirigé par Jean-Robert Charrier. Si on parle très souvent de la grande salle, ce sera encore le cas dans quelques minutes, Jean-Robert Charrier propose dans le Petit Saint-Martin des spectacles dont on a régulièrement parlé ici. Ces derniers mois, on s'est disputé autour de Dans ma chambre, Les Beaux, Girls and Boys, quelques autres encore. À chaque fois, des prises de risques qui sont d'ailleurs avérées payantes pour le patron de théâtre, parce qu'avec des salles bien garnies. En ce moment... Je sais que Jean-Christophe Briançon nous en parlera bientôt. On peut voir Jean-Quentin Chatelain dans Evgeny Sokolov. On peut aussi retrouver Grégory Gadebois qui reprend Des fleurs pour Algernon. C'est-à-dire deux grands comédiens dans cette petite salle. Le troisième spectacle en alternance, c'est donc Motel. Jean-Robert Charrier avait vu, tout comme moi d'ailleurs, le spectacle de fin d'études de Charlie Fournier au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Ça s'appelait Canicule. C'était une comédie tout à fait délirante et très rythmée. Charrier qui a ensuite vu ce qu'on appelle une maquette de ce Motel, soit une vingtaine de minutes d'un spectacle qui était en création à ce moment-là, qui a décidé, sur la foi de ces 20 minutes, de programmer ce spectacle au Petit Saint-Martin, et c'est cette audace que j'avais envie de saluer aussi bien sûr ce Motel qui est construit comme un cadavre exquis, fait écho au spectacle La Carpe et le Lapin dont on va parler tout à l'heure, mais c'est une drama-comédie-série, c'est comme ça qu'elle se présente, qui se joue dans un lieu unique, la chambre 237 d'un motel américain, chambre 237 On pense évidemment à celle de l'hôtel de Shining. Journée particulière dans un coin paumé du Texas. On entend à la télévision le discours de victoire de Donald Trump. C'est pas le seul drame de la journée, puisque on va voir se succéder dans cette petite chambre beaucoup, beaucoup de meurtres. On a l'impression que tous les dépressifs du secteur s'y sont donné rendez-vous successivement. Motel, c'est un jeu de massacre. Alors, c'est pas du tout correct, puisque je divulgage un tout petit peu, mais un père de famille dont les enfants sont morts de faim propose à sa femme d'en manger un, histoire de ne pas subir le même sort. Voilà, c'est un peu le genre d'humour de Charlie Fournier. Je vais pas trop divulgacher, mais avec lui, on peut rire de tout. Et même du pire. Donc, ce motel, il est en ce moment au théâtre du Petit Saint-Martin. Jusqu'à quand? C'est une bonne question que je me pose à moi-même. Jusqu'au 30 mars. Voilà, dépêchez-vous, ça se joue les dimanches à 18h et les lundis à 20h.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Et le dernier spectacle à notre sommaire ce soir, c'est La Carpe et le Lapin, un spectacle dont je ne savais rien avant d'entrer dans le théâtre de la Porte Saint-Martin, si ce n'est qu'il réunissait Catherine Fourreau et Vincent de Dienne, que des comédiens ont donné comme genre pour le qualifier cadavre exquis. Alors ils ont fait en sorte qu'on ne sache rien. La surprise fait sans doute partie du spectacle. Nous, on va quand même en dévoiler un petit peu plus pour nos auditrices et auditeurs. Alors, on va en dévoiler sans que la production, ça fait partie aussi du jeu, sans que la production nous ait communiqué d'extraits à faire entendre. C'est un choix que nous respectons parfaitement. Et donc, on va directement parler, d'abord avoir un premier regard des uns et des autres. Marie-Josée Sirache.
Un grand mezzé poético-burlesque.
René Solis.
Un spectacle ténu et tenu.
C'est beau. Jean-Christophe Briançon.
Un cabaret existentialiste, peut-être un peu trop ambitieux.
Bon, Marie-Josée Sirache va nous expliquer de quoi... Comment est composé ce spectacle, ce qu'on découvre? Alors, il faut le dire, à l'entrée du spectacle, on a une feuille qu'on peut prendre sur le comptoir et on a juste les noms.
Qui ne nous indique rien.
Mais à la sortie,
en revanche,
on nous donne un petit 21-29-7 plié en deux, dans lequel on aura, et on ne va pas trop en dire,
les références des différents
éléments qui ont servi. Mais ça, c'est construit comment, Marie-Josée?
C'est construit comme... disons que quand la lumière s'éteint dans la salle, le rideau rouge est baissé et puis apparaît Vincent de Dienne pour nous dire qu'ils avaient pensé faire un prologue.
Il apparaît devant le rideau de fer, non?
Oui.
Ah oui, c'est ça.
Oui, nous dire qu'ils avaient pensé
hier, j'avais oublié.
Écrire un prologue, qu'ils ont sollicité des tas de gens, bon bref. Et puis le rideau se lève parce que sa reine est là, et sa reine est alanguie sur un fauteuil, et sa reine s'ennuie, et donc sa reine étant Catherine Fraud, et derrière elle, on aperçoit dans un théâtre au mur totalement nu, un immense capharnaüm avec plein d'objets hétéroclites. On ne sait pas très bien ce que c'est. Ça relève de l'atelier de couture, il y a plein des tas de choses dont on voit
des
pas.
Des pianos, des mannequins, des portants
qui portent des vêtements.
Un tapis roulant de Jean-François Sivadier.
Un tapis roulant sur lequel ils vont. C'est Sivadier qui fait la...
Non, j'ai cru. On pourrait croire que j'ai failli vous avoir, Marie-Josée.
Oui, pardon, c'est la maladie, là. Donc, un tapis roulant et non pas volant, sur lequel ils vont s'amuser à courir, à... bref. Et tout ça est conçu comme un cadavre exquis, c'est-à-dire que l'un et l'autre ont apporté des textes, des auteurs, des textes dramatiques de Duras ou de Beckett, des chansons, ça peut être du Nicole Croisille ou du Vincent Delerme ou du Bobby Lapointe, quelques aphorismes, des poèmes, du Verlaine, de l'Aragon, un moment dansé, un extrait de film, ça s'emboîte façon cadavre exquis, même si en général donc on a un cadavre exquis au début et un autre à la fin, donc on le dévoile pas puisque c'est au spectateur de le découvrir, et tout ça fonctionne un peu comme des poupées russes qui s'emboîtent et se déboîtent, et l'un passe la parole à l'autre, enfin voilà, et les scénettes se suivent sans se ressembler.
René Solis, à présent, sur cette carpe et ce lapin.
Alors, Marie-Josée a bien décrit la chose. Donc, effectivement, on passe d'un texte à l'autre, d'une chanson à l'autre. Il y a un fil, quand même, dans ce cadavre exquis, c'est-à-dire la carpe et le lapin. C'est moins chaotique que ce que ça a l'air. Ça joue quand même sur une sorte de questionnement un peu à la fois souriant mais un peu mélancolique sur le temps qui passe et sur le rapport même à la mort. Ça revient très souvent, et sur le contraste entre les deux, c'est-à-dire il le joue entre l'actrice vieillissante et le jeune acteur. Il joue beaucoup de cette différence là, et ça donne au spectacle un ton particulier, et ce ton, ils arrivent à le tenir. C'est-à-dire que au-delà de leur montage de textes et de chansons qui sont un peu inégales, on va dire, tout n'est pas de même intérêt, de même force, on sent ce fil qui les tient, et ils se tiennent, et ils ont tous les deux une sorte de tenue. Je disais que c'est un spectacle qui est tenu, ça tient justement à pas grand chose, et ça pourrait être anecdotique, être un peu bébête, et ils ont tous les deux un corps et une façon de dire qui fait qu'on les suit, et y compris dans des moments comme ça plus noirs, plus étranges. Et c'est à ça que j'ai été moi sensible, en fait, le plus. Il y a par exemple une scène où il parle de mort. Il parle, alors il y a Villeray, il y a un hommage à Villeray, une scène du dîner de cons, et puis on entend la voix de Villeray d'ailleurs, et puis alors bon, on dévoile des choses, tant pis, mais on parle, et il parle de la mort de Pina Bausch, et il y a une petite chorégraphie, et ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. Il y a des choses comme ça qui sont un peu...
Je suis pas d'accord avec vous, mais je le dirais.
Mais il y a dans cette énumération des morts, moi, il y a un moment qui m'a beaucoup touché. Et il dit, Vincent de Dienne, quand Patrice Chéreau est mort, je jouais dans un petit café-théâtre à Lyon. Et il s'arrête, donc voilà, petit silence, il dit. Et il ajoute, et personne ne savait qui c'était. Et ce moment-là, par exemple, c'est un moment comme ça d'émotion très forte. Tout d'un coup, il y a une authenticité qui passe, et c'est un peu à l'image du spectacle. Ils sont dans une relation entière à ce qu'ils font. C'est du narcissisme généreux, si on peut dire. Et du coup, oui, moi, j'étais quand même sensible à ça. Mais bon, c'est fragile.
C'est fragile. Jean-Christophe Brianchon sur La Carpe et le Lapin, qui réunit Catherine Froy et Vincent Dedienne, qui co-signe la mise en scène avec Julie Anne Roth, et il est précisé sous le regard précieux de Serge Bagdasarian.
Bah c'est vrai que de l'émotion passe, et de l'émotion passe souvent, pas que à cet instant-là. Cet instant-là est effectivement très beau, et l'émotion passe souvent, je suis désolé de le dire, à défaut pour Catherine Froy, mais à travers Vincent de Dienne, pour moi, tel que j'ai vu le spectacle. Je trouve que dans sa façon, effectivement, un peu narcissique de nous faire passer ses émotions, sa vie, son vécu, son rapport au temps, sa vie d'acteur, de comédien, son enfance, plein de choses, son rapport au texte, il a... effectivement une générosité qui est très belle et très émouvante. Après, comme je le disais tout à l'heure, et ça part peut-être du fait que le spectacle soit pour moi une idée en laquelle je tiens beaucoup, il est peut-être un peu trop ambitieux. Je trouve l'idée superbe et la scénographie magnifique. La scénographie, on en a déjà parlé, mais faut le redire, elle est vraiment très belle.
Elle est signée Alexandre de Dardelle.
C'est une scénographie rare, d'un espèce de bric-à-brac une espèce de scénographie rare dans un théâtre complètement déshabillé, désespéré, désespérant parfois, au sein duquel vont se passer des choses qui parfois permettront d'être un petit peu moins désespéré, mais toujours un petit peu quand même, parce que comme le disait René, il y a une tristesse et un rapport au temps qui ne cesse de nous rattraper tout le temps, tout au long du spectacle. Je pense, somme toute, que il aurait peut-être mieux fallu que la mise en scène soit assurée par une seule personne. Alors c'est avec des si, hein, je ne sais pas ce que ça aurait été autrement, mais je trouve que le spectacle manque de tenue, contrairement à ce que disait avec René, bien que je sois d'accord avec lui, mais il manque de tenue par ailleurs. C'est pas au même endroit. Je trouve que dans le collage qu'ils essayent de faire, qui est une démarche que je le dis toujours, que j'aime énormément, parfois les choses ne s'entrechoquent pas exactement comme elles pourraient. Ça tient aussi de l'inégalité des textes et des éléments qui nous sont proposés. Ça tient donc au fil de la dramaturgie qui ne se tient pas toujours, et ce qui est en contradiction totale avec l'idée d'un cadavre exquis. Donc c'est peut-être un peu bête de le dire, mais je trouve que la dramaturgie aurait pu être un petit peu plus resserrée, avec un metteur en scène qui aurait donné des indications un petit peu plus précises. C'est en ça que je disais tout à l'heure que c'est un spectacle trop ambitieux. Malgré tout, ça reste une très belle idée portée surtout par ce comédien que je trouve une fois de plus très intéressant et d'une sensibilité qui m'est très chère.
Oui, ça je ne peux qu'abonder dans votre sens. Il a vraiment une forme de grâce, hein, Vincent de Dienne, disons-le. Alors peut-être que chacun son bémol, moi je trouve qu'il y a un peu trop de chansons. Alors c'est peut-être Catherine Fauve voulait montrer qu'elle sait très bien chanter, elle a une très belle voix, bien. Et peut-être qu'elle voulait un peu aller contre le succès énorme de Marguerite, où elle jouait cette cantatrice ratée, tout à fait ratée. Elle chante très bien, Catherine Fauve, donc, mais elle le montre pour moi peut-être un peu trop, oui, un peu trop de reprise.
Le répertoire va de Miss Tinguette à Nicole Croisy.
Ouais. Voilà, bon, après c'est peut-être une question de répertoire. Mais bon, moi je suis plutôt comme vous, et pas comme... Alors pour aller contre René Solis, je dirais que le moment dansé, moi je trouvais que c'était le moment le plus gonflé et le plus beau du coup, parce qu'effectivement c'est tellement casse-gueule, hein, de dire parler de Pina Bausch et de faire un pas de deux vraiment avec des danseurs amateurs, et ne se cachent pas de l'être, ils ont plus ou moins de grâce l'un et l'autre, mais j'ai trouvé que justement aller jusque là, ce moment-là, puis un autre. D'ailleurs, il y a un lien qui... En fait, je me rends compte en vous le disant, le lien à Pina Bausch. J'ai pensé à Pippo Del Bono, figurez-vous, à un moment dans ce spectacle, dans ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire de toutes petites choses comme ça, avec pas beaucoup de moyens, et qui peuvent amener une émotion qu'on n'attendait pas. Moi, je n'attendais rien de particulier de ce spectacle, La Carpe et le Lapin. Et le fait est que de pouvoir donner à entendre à un public dont c'est peut-être pas la nourriture principale, à la fois la vie matérielle de Marguerite Duras, à la fois Walter Benjamin, à la fois Samuel Beckett, mais aussi Francis Weber, moi, ça me réjouit qu'on puisse oser un mélange pareil. Marie-Josée Sirache.
Je suis comme vous. Moi, j'étais extrêmement séduite par leur audace, parce qu'ils sont gonflés, effectivement, le passage Pina Bausch et même le dîner de cons.
Bien sûr.
Venir après Villeray, qui est un acteur immense, y sentir, mais drôlement bien. Et moi, Vincent de Dienne, que j'avais vu dans Le Marivaux, mise en scène par Yégel, je ne l'avais pas trouvé très bon. C'est-à-dire que je trouvais qu'il faisait du Vincent de Dienne et il n'y avait aucune surprise. Et là, je trouve que là, il commence à être un acteur. On sent qu'il va loin, qu'il se lâche, qu'il est complètement... voilà, il y a quelque chose... il gagne en maturité, en liberté, en force. Donc j'étais vraiment très très heureuse de l'éprouver sur scène. Après, je trouve que, y compris s'amuser à détourner le concept du cadavre exquis. Quand je parlais de Grand Mezzé, c'est plus ça. C'est-à-dire que chacun a apporté un petit peu son plat, son bout de tissu ou sa couleur qu'il a à un moment donné dans son parcours, dans sa vie, dans son enfance, a fait ce qu'il est aujourd'hui. Et cette façon qu'ils ont de se retrouver tous les deux avec l'écart d'âge, je trouve que ça fonctionne. On est bien, quoi, dans ce spectacle.
René Solis.
Oui, non, je pense qu'on a tous été d'une façon ou d'une autre finalement surpris et touché. Donc ils ont réussi quelque chose, indiscutablement.
D'autant que moi, enfin, j'étais hier après-midi, la salle était comble. Il y a peu de théâtre comble, hélas, en ce moment, et ils font le plein.
C'était comble aussi le soir où j'y étais, et c'est audacieux là aussi. Ils sont audacieux dans ce qu'ils font in fine, mais dès le départ, la démarche est audacieuse, parce qu'effectivement, on ne sait rien. Nous-mêmes, je sais pas, parfois, on a des informations que le public n'a pas en tant que journaliste. Là, nous-mêmes n'en avons aucune, on ne sait rien, on se lance sur une affiche, finalement. Ouais. Et j'avais peur de ça, d'ailleurs.
Ouais,
j'avais peur
sûr.
De me déplacer simplement pour deux
peur.
Comédiens. Bon, et en fait,
on aime l'un et l'autre ne change rien à l'affaire. Qu'est-ce que c'est que d'aller voir un spectacle sur deux noms?
De fait, on se déplace pour deux noms, mais qui à la fin, nous offre quelque chose.
La Carpe et le Lapin, Vincent de Dienne et Catherine Fraud sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin. Pour l'instant, c'est jusqu'au 15 mars. Et avant de conclure cette émission, Lola Schedler nous a rejoint comme chaque soir. Pour dans un premier temps, alors que c'est l'heure du jeu de la dispute, nous rappeler la question du jeu de vendredi soir pour donner sa réponse. Lola.
Comment s'intitulait l'œuvre de Ulla von Brandenburg présentée à l'occasion de la réouverture du Palais de Tokyo en avril 2012? Et la réponse est Death of a King.
Ce soir, à l'occasion du forum Vertigo, on vous fait gagner des invitations pour aller assister à un débat sur l'intelligence artificielle intitulé « Vers une IA ». Intelligence artificielle humanisée, point interrogation. Le débat, c'est mercredi 26 février à 19h au Centre Pompidou à Paris. La question.
Qui a publié en janvier dernier le roman intitulé « Une machine comme moi » ?
Très bon roman. Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault, Lola Schedler, prise de son ce soir, Pierre Fossillon, réalisation Émilie Vallas. Demain, 19h, dispute musique, je serai avec Sophie Bourdet, Emmanuel Giuliani et Laurent Burri. Notre programme La Dame Blanche, en ce moment à l'Opéra Comique, De la Maison des Morts de Jana Tchek, en DVD, une mise en scène de Franck Castorf. Qu'est-ce que ça peut donner? C'est Pauline Bureau hein, qui signe la mise en scène de La Dame Blanche, je ne l'ai pas dit, c'est très mal. Un CD, les symphonies numéro 1 et 3 de Schumann, dirigées par John Elliott Gardiner. Et puis il y aura un coup de cœur de Sophie Bourdet pour un disque Forêt et ses poètes, gravé par Marc Moyon et Anne Lebozec.